Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Au lendemain de la mort de Giorgio Strehler, le 25 décembre 1997, Patrice Chéreau déclarait dans les colonnes du journal Le Monde. Il était le théâtre tout entier, celui qui pensait que le théâtre avait une responsabilité dans le monde et dans la société, celui qui m'a tout appris, l'espace théâtral, le travail du sens, comment raconter une histoire à travers la poésie du théâtre, comment allier la légèreté et la gravité. Né en 1921 en Italie, près de Trieste, Strehler fonda le Piccolo Teatro de Milan au lendemain de la guerre, en 1947. Parmi ses auteurs de prédilection, Carlo Goldoni en tout premier lieu, mais aussi Pirandello, Brecht, auprès de qui il étudia dans les années 50, ou encore Tchekhov. En 1980, paraissait en France, chez Fayard, un livre intitulé « Un théâtre pour la vie », compilation de réflexions, d'entretiens et de notes de travail de Strehler. Le 4 mars 1980, Dominique Arban recevait Bernard Dor, préfacier du livre, dans l'émission « Étranger, mon ami », pour évoquer l'influence déterminante de celui qui prendrait, 2 ans plus tard, la direction de l'Odéon Théâtre de l'Europe.
Voici un livre qui donne au lecteur un bonheur inattendu, je dirais même imprévisible. Car d'un grand metteur en scène, comme l'est Giorgio Strehler, dont nous allons parler, et qui est l'auteur de ce livre, on attend, ce qui d'ailleurs s'y trouve évidemment, ses apprentissages, son expérience théâtrale, ses réflexions sur telle ou telle mise en scène, sur tel ou tel problème spécifiquement théâtral. Seulement, voilà, on se met à aimer cet homme-là. On se dit, voici un homme comme tous devraient être. On est brusquement, si éloigné qu'on soit des problèmes de metteur en scène, en communion avec lui. Cette espèce de chaleur humaine, son goût et son sens des responsabilités, cette extraordinaire affection et pour les autres et pour son métier, sa passion de perfectionniste au sens le plus noble de ce terme. Et je reviens, sa tendresse. Sa tendresse pour un auteur mort il y a quelques siècles, pour ses collaborateurs, pour ses décorateurs avec qui il travaille minutieusement, pour ses machinistes et aussi, surtout, éminemment, pour le public. Bref, au terme de ce livre, cet étranger était vraiment devenu mon ami. Et c'est quand même étonnant, et vous, Bernard Dort, qui le connaissez bien, combien de fois vous ai-je entendu dire « je prends l'avion pour Milan », il y a une nouvelle mise en scène de Strehler au Piccolo Théâtre de Milan. Vous le connaissez bien. Est-il en réalité cet homme-là?
Il l'est et il ne l'est pas. Enfin, je crois qu'il l'est profondément.
Parfois, il a mauvais caractère. Enfin.
Souvent. Souvent.
Vous me rassurez qu'il est né en 21, près de Trieste.
Oui. C'est-à-dire qu'il est d'origine austro-italienne. Oui, c'est très, très important. Oui. Dans sa culture, disons, même dans sa complexion, il a une mélancolie, il a une sorte de nostalgie très, très marquée par l'Europe du milieu. Il se sent, d'ailleurs, il le dit dans ce livre, il se sent peut-être même quelquefois plus européen qu'italien. Quoique il soit en quelque sorte le fondateur de la mise en scène moderne en Italie, il est la plus grande figure du théâtre italien en tant que metteur en scène depuis la guerre.
Non seulement italien, parce que nous l'avons eu le bonheur de le voir ici. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu une mise en scène de Strehler à l'Odéon, c'était Baruch Akyoggia. Oui. C'est un de mes très grands souvenirs.
Oui. C'est une des très grandes mises en scène de Strehler aussi.
C'est étourdissant. En plus, ce n'était même pas en italien. D'ailleurs, je ne sais pas l'italien. C'était un dialecte vénitien.
Oui.
Mais on comprenait parfaitement tout.
D'ailleurs, c'est une très belle pièce populaire de Goldoni. Et dans ce livre, Un théâtre pour la vie, il y a des pages que je trouve admirable de Strehler sur Goldoni.
Ah oui, mais nous y viendrons. Parce que vraiment, il faut un peu parler de ses apprentissages. D'abord, ça a été Coppo, c'est extraordinaire.
Mais il a vu des spectacles que Coppo a montés en Italie. Mmh. Coppo avait monté, par exemple, la légende de Sainte-Olive dans les jardins de Boboli de Florence. Et c'est un des premiers spectacles qu'ait vu Strehler. Ce qui compte toujours, que ce soit pour les hommes de théâtre ou pour les écrivains, c'est les premiers spectacles qu'on a vus, c'est les premiers livres qu'on a lus.
Alors Jouvet.
Et Jouvet
a une très grande importance.
Très grande importance.
Jouvet lui a donné l'idée que l'homme de théâtre, l'acteur en tout cas, parce qu'il faut dire que Streller a fait tous ses apprentissages. Il a d'abord été un petit acteur, ensuite il a dirigé une petite troupe en Suisse, ensuite il a dirigé des groupes plus importants en Italie, et oui. puis il est devenu directeur.
Bah, il a fondé le Piccolo Teatro avec Paolo Grassi, oui. et le Piccolo Teatro, on l'oublie maintenant parce que c'est une des grandes institutions théâtrales européennes, mais c'était à l'origine le petit théâtre. C'est le nom, c'est la traduction, Piccolo. Oui,
évidemment.
D'ailleurs, il a connu Jouvet. Jouvet a vu les premiers spectacles de Streller qui sont venus à Paris, en particulier le célèbre ici maintenant Arlequin, serviteur de maître. Oui. Et Jouvet a encouragé Streller. Et par la suite, Streller est resté profondément fidèle à Jouvet. Et Streller a aussi, ce que n'ont pas fait d'ailleurs tous les hommes de théâtre français, a aussi très bien lu les livres de Jouvet.
Ouais.
Très, très
oui,
bien.
Il
en cite beaucoup et c'est très, très important pour lui.
Vous dites dans votre préface, qui est éminente naturellement, on s'en douterait, qu'il considère certaines mises en scène comme des emboîtages, notamment pour la Cerisaie
oui.
de Tchekhov.
Je reprends une théorie que Streller formule. Il
D'accord,
dit
mais...
chaque spectacle, chaque représentation, ce sont les trois boîtes chinoises, les boîtes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et la première boîte, c'est l'histoire toute simple, l'anecdote si on veut,
ça.
La vie quotidienne aussi.
La deuxième, c'est l'histoire avec un grand H.
C'est l'histoire avec un grand H.
Mais est-ce qu'on peut faire ça, par exemple, avec les bas-fonds de Gorky, qui sont l'histoire avec un grand H partout ?
Non, mais il a essayé de le faire aussi. Il y a la troisième, il ne faut pas oublier. La troisième, c'est l'interrogation humaine, pas le destin
oui,
à proprement parler. L'homme avec un grand H aussi.
Ou avec beaucoup de petits H. Parce que ce qu'il a de merveilleux, Streller, d'après ce livre, c'est sa coïncidence avec l'humain.
Oui.
L'humain tout simple.
Oui, oui, oui.
L'humain très ordinaire. Et c'est le spectateur, en réalité.
Oui, une des choses caractéristiques de Streller, c'est que, comme d'autres hommes de théâtre qu'il tient pour ses maîtres aussi, comme de Brecht d'ailleurs, c'est ce goût du détail, des petites choses simples aussi. Vraiment, sur la scène, bien sûr, il y a de grands symboles, il y a de grandes significations, il y a l'homme avec un grand H, mais il y a aussi les tâches journalières, les gestes journaliers.
Dans Baruch Fakyogia, c'est absolument extraordinaire. Oui. Tous ces gens qui se querellaient, qui allaient chez le petit juge d'à côté, tous ces gens qui étaient devant la lagune, où à la fin on voyait arriver la voile d'un petit bateau,
oui, oui.
et tout ça était blanc. C'est miraculeux, mais c'était blanc.
Oui. D'ailleurs, depuis, c'est presque devenu une mode dans le théâtre, mais c'est en un sens une invention de Streller, la scène blanche, la scène éclairée à Giorno, la scène claire. Le mot clair aussi, c'est un mot qui revient beaucoup dans ses textes. Il veut faire un théâtre clair, un théâtre simple et littéralement transparent.
Vous dites par exemple que l'ambition strellerienne de faire un théâtre qui restitue à la fois notre présent immédiat et l'histoire de la société, sans négliger les grandes instances de la vie humaine, celles notamment du temps, de la naissance à la mort, à travers le vieillissement.
Oui, je crois que le temps est une des dimensions absolument essentielles du travail de Streller. Et on le retrouve de manière très claire dans une mise en scène comme la mise en scène de la Cerisaie.
Il en parle admirablement.
Oui, oui. Mais il constate que, là aussi, c'est toujours cette théorie des trois boîtes chinoises, mais qu'il y a
en
quelque sorte...
La Cerisaie est un bon exemple.
Très bon exemple. Mais qu'il y a en quelque sorte trois temps dans la Cerisaie qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Il y a le temps de la journée. La pièce commence le matin et se termine un autre matin.
Mmh.
Et pendant ce temps-là, se déroule toute une journée. Mais cette journée, c'est aussi un certain nombre de semaines, de mois. C'est en fait toute l'année.
Je vais citer de mémoire. Quand Tchekhov écrit, nous nous levons le matin,
oui.
nous dormons, nous mangeons, nous allons nous promener, nous jouons au billard. Et pendant ce temps, nos amours se fondent, le temps clapote et la vie s'en va. Et ça, c'est très sensible dans certaines mises en scène de Streller, notamment
oui.
de Tchekhov, évidemment.
Oui, mais même dans Goldoni, même dans la trilogie de la villégiature qu'il a montée avec les comédiens français à l'Odéon, si on veut, le temps des horloges, c'était, disons, un mois à la fin de l'été. Dans ce temps, Streller introduisait, pour ainsi dire, toute une vie humaine.
Ah, il a introduit encore autre chose, les atmosphères,
oui.
les saisons, les lieux. Oui. La scène devient un spectacle, même sans les acteurs.
Oui,
scène est une totalité.
Dans ses notes de mise en scène, il précise toujours la saison. Et la saison strellerienne par excellence, c'est l'automne. Il adore l'automne. Le moment où les choses sont suspendues, où l'histoire hésite, où le temps hésite aussi. L'atmosphère est très importante, mais en même temps, c'est pas un théâtre d'atmosphère seulement.
C'est beaucoup un théâtre d'action.
Oui,
j'en ai vu trois pièces.
Il se passe quelque chose, et ce quelque chose alors nous renvoie à une description de la société, d'une société prise dans son ensemble.
Et nous voilà dans Brecht.
Vous dites ça sur un ton catastrophé.
Vous savez ce que je pense.
Pour Strehler, Brecht est capital. Sa rencontre avec Brecht a été absolument essentielle. En Italie, il a été le metteur en scène de Brecht, et certains de ses grands spectacles sont des œuvres de Brecht. Le Galilée que Strehler a monté en 63 était un spectacle absolument admirable, mais d'une lecture qui n'était pas grise, froide. Enfin, là aussi, il dit des choses très belles, à la fois sur la nécessité du jeu épique de l'acteur, de la scène épique, d'un théâtre épique, vraiment, et sur le danger de la grisaille.
Il dit ce que Brecht m'a enseigné parmi tant d'autres choses, et qu'il continue à m'enseigner, c'est un théâtre humain. Riche, entièrement théâtre, celui de Jouvet, d'une certaine façon, mais qui n'est pas une fin en soi, qui n'est pas seulement théâtre. Un théâtre fait pour les hommes, pour les divertir, mais aussi pour les aider à se transformer et à transformer ce monde en un monde meilleur, en un monde pour l'homme. Je passe, c'est une citation très belle, mais elle est longue. Non pas un théâtre hors de l'histoire, hors du temps, non pas le théâtre éternel de toujours, non pas l'histoire contre le théâtre, mais histoire et théâtre, monde et vie en même temps, en un rapport dialectique continu, difficile, parfois douloureux, mais toujours actif, toujours attentif au devenir général.
Oui, je crois que ça, c'est une citation tout à fait essentielle. Oui. On la rencontre dans ce paragraphe sur Brecht, on rencontre des formulations semblables tout au long de ce livre. Il y a aussi cette admirable reprise par Strehler de la phrase de Goldoni qui dit qu'il a toujours été fidèle à deux choses dans sa vie, le monde et le théâtre. Et chez Strehler, c'est aussi cette espèce de tentative désespérée d'être fidèle à la fois au monde, à la quotidienneté, à ce qui se passe entre les êtres, et d'être fidèle au théâtre, c'est-à-dire à ce qui se passe sur scène. Parce que pour Strehler, le théâtre, c'est la scène, et même la scène en italienne, d'ailleurs.
Il y a un chapitre prodigieux qui s'appelle Intermezzo.
Ah, c'est très beau, ça.
Oh, c'est étonnant. Très, très beau, ça. Je ne peux pas lire tout, on n'a pas le temps. Mais ça commence comme ça, mon métier consiste à raconter des histoires aux autres. Il faut que je les raconte, je ne peux pas ne pas les raconter. Je raconte les histoires des uns aux autres. Ou bien je raconte mes propres histoires à moi-même ou aux autres. Je les raconte sur une scène de bois où il y a d'autres êtres humains au milieu d'objets et de lumière. S'il n'y avait pas de scène en bois, je les raconterais par terre, sur une place, dans une rue, dans un coin de rue, sur un balcon, derrière une fenêtre. S'il n'y avait pas d'être humain auprès de moi, je les raconterais avec des morceaux de bois, des bouts d'étoffe, du papier découpé, du fer blanc, avec ce que le monde peut m'offrir. S'il n'y avait rien, je les raconterais en parlant à voix haute.
Mais c'est la passion même que Strehler a du théâtre, et du théâtre comme façon de raconter des histoires aux autres, de divertir les autres, et en même temps de les aider à se transformer, de les aider
et
à comprendre.
Le problème de l'acteur, et justement, il y a là un problème avec Jouvet, parce que Jouvet disait, Strehler, shit, Jouvet, c'est d'ailleurs très étonnant, on s'introduit dans un rôle, on s'y faufile, on agite le texte, on agit par astuce, subrepticement, on se substitue, on se justifie d'idées qui viennent ensuite. Mais s'il s'agit de penser, de parler ou d'écrire, le comédien est livré à lui-même dans son néant. Sa nature et sa vocation sont d'être vide et creux, disponible, accessible, vacant, habitable. Mais alors, lui, il est comme ça.
Oui, il est comme ça, il n'est pas comme ça tout à fait, parce que, en même temps, il se laisse habiter par les choses. Strehler est un metteur en scène, d'ailleurs, qui a une fidélité extrême au texte qu'il monte. Il se laisse envahir par Goldoni ou par Brecht. Mais cet envahissement se retourne aussi, c'est lui-même qui les envahit. Parce qu'en fin de compte, et on le voit bien dans ce livre qui est fait de pièces et de morceaux, mais qui est admirablement uni quand même. Il y a des lettres, des notes de Régis, sur le même homme qui parle. Oui. Et en même temps, le théâtre de Strehler, c'est en effet le théâtre de Goldoni, de Brecht, de Shakespeare, mais c'est aussi profondément le théâtre de Strehler. Il se raconte toujours lui-même.
Avec le roi Lear, c'est un peu difficile.
Ah, oh, mais si, le roi Lear, c'est l'histoire d'un homme qui a le pouvoir et qui ne l'a plus. Et c'est une sorte de grand fantasme de Strehler. C'est l'histoire d'un homme guetté par l'âge aussi. D'ailleurs, vaincu plus que guetté, vaincu par l'âge. Et c'est aussi un des fantasmes de Strehler. La notion de temps, on la retrouve là, mais appliquée à lui-même, à sa propre chair. Ce qui, moi, m'a passionné dans ce livre, au-delà de tout ce qu'il nous apprend sur le travail de Strehler, c'est qu'au fond, Strehler, il raconte aussi sa propre histoire. C'est une sorte de roman théâtral de Strehler par lui-même.
Ah, c'est extraordinaire. Vous dites d'ailleurs, Bernard, et votre introduction se termine sur ces mots, ce livre est le roman d'une quête qui n'est pas celle de la vigne et de la vérité, mais de leur double, cette illusion nécessaire et toujours incomplète, fallacieuse et cependant vraie, éternelle et fugitive, facile et hors d'atteinte, qu'on appelle le théâtre.
C'était « Étranger, mon ami ». Dominique Arban recevait Bernard Dore pour évoquer le livre de Giorgio Strehler, « Un théâtre pour la vie ». Première diffusion sur France Culture le 4 mars 1980. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Elles effacent toute celle.